pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
Les As de l'info. TDAH, pas de trouble. Un texte paru dans l'édition de novembre 2024 du magazine Curium. Charlotte, 15 ans. Le TDAH, ce n'est pas qu'un problème. Ça peut aussi être un outil et créer des situations très drôles. J'en suis la preuve vivante. Mes parents ont deviné que j'avais un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, TDAH, quand j'avais 3 ans. Leur intuition a rapidement été confirmée par le diagnostic d'une psychologue. D'ailleurs, quand elle m'a demandé d'entourer des fusées sur une feuille tout en écoutant un enregistrement, je lui ai répondu du tac au tac que je ne pouvais pas faire deux choses à la fois. Au début de mon primaire, je me sentais différente à cause de mon TDAH. Ça m'a pris un certain temps à l'accepter. Mais ensuite, ça s'est bien passé. J'ai commencé à prendre des médicaments au secondaire pour m'aider en classe. Autrement, c'était comme si j'avais 50 voix dans ma tête qui parlaient toutes en même temps. La médication ne les a pas fait taire à 100%, mais elle m'aide à les organiser. Quand on me soumet un problème, par exemple, je trouve souvent l'idée parfaite à laquelle personne n'avait pensé. On dirait que j'arrive plus facilement à penser hors de la boîte, à avoir des idées originales. Autre gros bonus, j'aime bouger. Oui, le H dans TDAH s'applique à moi. Certaines personnes disent même que je suis triple H. Et c'est super pour pratiquer le taekwondo. J'en fais 3 soirs par semaine. Chaque personne vit le TDAH à sa manière. Ce n'est ni un défaut, ni une qualité. C'est une partie de soi qu'on peut apprendre à bien utiliser. Pour y arriver, ça aide que notre entourage nous accepte comme on est. J'ai besoin de pouvoir en parler ouvertement. Mes amis savent que j'ai ce diagnostic. D'ailleurs, quand j'ai trop d'énergie, ils et elles me taquinent et me disent d'aller grimper les 4 étages de notre école. Allez hop, j'y vais. Après avoir lu le témoignage de Charlotte, Sophie Leroux, psychologue, propose cette réflexion. Reconnaître ses forces et ses limites, voilà une belle aptitude dont fait preuve Charlotte. Le TDAH oblige à relever des défis au quotidien. Il faut gérer son inattention, son impulsivité et son hyperactivité d'intensité variable selon la personne. Pour Charlotte, le TDAH s'exprime surtout par une difficulté à faire 2 choses en même temps et par une hyperactivité cérébrale et motrice. Ce trouble est d'origine neurodéveloppementale, c'est-à-dire qu'il affecte la manière dont le cerveau fonctionne. De plus en plus d'études et de témoignages mettent en lumière les qualités associées au TDAH. On pense notamment à la créativité, à l'intuition, à la curiosité, à l'ouverture d'esprit, à la spontanéité, à l'audace et à l'improvisation. Charlotte a découvert les avantages de son esprit créatif et de son énergie. Elle a aussi trouvé des moyens pour s'adapter lorsque son trouble lui pose des difficultés. Son sens de l'humour est un bel atout pour dédramatiser, tout comme l'acceptation de son entourage. Percevoir le TDAH au-delà du trouble s'inscrit dans un mouvement qui prône la neurodiversité. Ce concept reconnaît l'existence d'une grande diversité de cerveaux et d'esprits humains. Il invite à aller au-delà des concepts d'incapacité et de déficience sans toutefois nier les difficultés rencontrées. Le cerveau d'une personne neurodivergente, exemple TDAH, autisme, douance, troubles spécifiques d'apprentissage, est câblé différemment de la moyenne des gens, ce qui entraîne une autre façon de traiter et d'utiliser l'information. Le concept de neurodiversité, avec ses avantages et ses défis, appelle au respect et à la singularité de chacun, chacune. Peu importe la façon de concevoir le fonctionnement du cerveau, il est précieux d'apprendre à bien se connaître pour mieux s'adapter aux défis de la vie. Charlotte en est un exemple inspirant. Encore une grève. Pourquoi ça arrive si souvent? Un texte de Esther Solio, paru le 25 novembre 2024 dans les As de l'Info. Les employés de Poste Canada viennent de déclencher une grève. Et juste dans la dernière année, il y a eu la grève des enseignants, la grève au port de Montréal, celle des employés du zoo de Granby. En fait, 2023 a été une année marquée par les grèves au Québec. Ça faisait presque 40 ans qu'il n'y en avait pas eu autant. Des chercheurs ont expliqué au journal Le Devoir pourquoi c'est de plus en plus fréquent. Mais c'est quoi une grève? C'est quand des travailleurs décident ensemble d'arrêter de travailler parce qu'ils vivent un conflit avec leur patron. En général, ils ont déjà essayé de trouver d'autres solutions en discutant avec eux, mais sans succès. Souvent, les travailleurs font la grève pour demander des améliorations de leurs conditions de travail, horaires, salaires, etc. Trois grandes raisons. D'abord, depuis la pandémie en 2020, le coût de la vie a beaucoup augmenté. Les produits qu'on achète, la nourriture et les loyers sont beaucoup plus chers qu'avant. Mais les salaires des travailleurs n'ont pas autant augmenté. Comme leurs dépenses sont plus élevées qu'avant, les employés réclament de meilleurs salaires pour compenser. De plus, le taux de chômage est bas au Québec en ce moment. Ça veut dire que presque tous les gens qui peuvent travailler ont un emploi. Pour Jean-Philippe Warren, qui est sociologue à l'Université Concordia, ça expliquerait que les travailleurs osent faire la grève. Ils n'ont pas peur de perdre leur boulot. C'est parce qu'ils savent que leur patron aurait de la misère à trouver des remplaçants. Ils ont trop besoin d'eux. C'est une position de force pour les travailleurs. Finalement, toutes ces grèves ont un effet boule de neige. Les médias, comme les As de l'Info, parlent des grèves et des négociations qui débloquent parfois grâce à elles. Cela peut inspirer d'autres groupes de travailleurs à faire la grève à leur tour pour améliorer leurs conditions. Maintenant, tu te demandes peut-être si la grève des facteurs de Poste Canada va retarder l'envoi des cadeaux de Noël. Viens nous lire régulièrement sur le site des As de l'Info pour suivre ce dossier. Des travailleurs qui font la grève, ça a un impact sur la société. Raconte-nous comment ça te touche, toi, dans ton quotidien. Pour ou contre acheter local. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 25 novembre 2024 dans les As de l'Info. Quand tu magasines avec tes parents, tu vois peut-être des étiquettes avec la mention « Fait au Canada »,« Aliments du Québec » ou « Produits local ». Ça indique quels produits viennent d'ici comparativement à des produits provenant d'un peu partout sur la planète. Pour certaines personnes, c'est un critère important quand vient le temps de faire un achat, mais ça vient parfois avec des compromis. Tiens, alors que le magasinage des fêtes approche, pourquoi ne pas faire une liste des pour et des contre l'achat local? Allons-y. Les pour, c'est bon pour notre économie. Quand on achète des produits fabriqués ou cultivés localement, on encourage les entreprises d'ici. On leur assure des revenus. L'achat local permet de faire rouler l'économie. C'est bon pour les villes, les provinces, le pays. C'est éthique. Beaucoup de jouets sont faits dans des pays où les employés travaillent dans des conditions de travail difficiles, pour très peu d'argent. Il y a même des usines qui embauchent des enfants. Ici, il y a des lois qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs. C'est plus écologique. Le moule dit. Local, ça veut dire d'ici. Donc, les produits locaux ne voyagent pas de longues distances pour arriver dans les magasins. Moins de transport égale moins de pollution. C'est un plus pour l'environnement. Ça préserve notre culture. Acheter un produit local, c'est aussi encourager des savoir-faire propres à chez nous. Il existe même un logo qui permet de reconnaître les objets créés par des artisans autochtones. Quand on choisit un produit authentique, plutôt qu'une copie fabriquée en Chine, on permet à ces arts traditionnels de vivre et de rayonner. Les contres, c'est plus cher. Certains produits faits ici sont plus chers que ceux fabriqués ailleurs. Entre autres, parce que les travailleurs sont mieux payés ici. Tout le monde n'a pas le budget pour acheter des produits locaux. C'est beaucoup d'efforts. Pas facile de tout acheter local. Il faut souvent faire plus d'un magasin, chercher et planifier. Difficile de résister à certains sites d'achat qui proposent des milliers de produits pouvant être livrés à la maison le lendemain. Des habitudes difficiles à changer. Si on veut consommer 100% local, on doit aussi se résigner à changer nos habitudes. Bye-bye les bananes, le chocolat ou les cartes Pokémon qui sont des produits étrangers. Il y a moins de choix. Les fabricants locaux ne peuvent pas offrir un choix infini de produits. Ça leur coûterait trop cher à produire. Il faut oublier les pantalons en 5 styles, 12 tailles et 10 couleurs. Les consommateurs sont donc limités et parfois, ça peut être frustrant. Toi, es-tu pour ou contre acheter local? C'est le temps des vacances de Tax. Un texte de Camille Lopez, paru le 26 novembre 2024 dans les As de l'Info. De la mi-décembre à la mi-février, l'épicerie, les jouets, les sorties au resto et les vêtements pour enfants coûteront moins cher au Canada. Pourquoi? Le gouvernement fédéral a annoncé un congé de TPS, mais qu'est-ce que ces trois lettres veulent dire? C'est quoi la TPS? Ça veut dire « taxe » sur les produits et services. Tu as peut-être remarqué que, quand tu achètes quelque chose, tu payes plus que le prix indiqué sur l'étiquette. C'est parce qu'il y a des taxes qui s'ajoutent. Sur la facture, on peut en voir deux. La taxe de ta province et la taxe du Canada. La TPS, c'est la taxe du Canada. Elle vaut 5 % du prix d'un article. Par exemple, si je veux acheter des patins à 100 $, je devrais payer 5 $ de plus pour la TPS, donc 105 $. Parce que 5 % de 100 $, c'est 5 $. Au Québec, la taxe provinciale s'appelle la TVQ, Taxe de vente du Québec. Elle vaut 10 % du prix d'un article. Pour mes patins à 100 $, ça représente donc 10 $. Avec la TPS et la TVQ, le coût total de mes patins sera donc 115 $. À quoi ça sert, les taxes? Quand on paye une taxe, la somme est envoyée au gouvernement. Il l'utilise pour financer plusieurs services publics comme les hôpitaux, les routes et les écoles. Qu'est-ce qui se passe? Jeudi dernier, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que les Canadiens n'auront pas à payer la TPS sur plusieurs types de produits de la mi-décembre à la mi-février. Certaines des choses qui coûteront donc un peu moins cher, les aliments préparés comme les sauces à spaghettis, les repas au resto, les jouets, les consoles de jeux vidéo et les vêtements pour enfants. Mais pourquoi? Depuis un certain temps, le coût des produits augmente au Canada. Et c'est difficile pour le portefeuille de beaucoup de gens. Ce que Justin Trudeau a dit, c'est qu'il offrait ce congé de TPS pour mettre plus d'argent dans les poches des Canadiens. Il a aussi annoncé l'envoi de chèques de 250 $ l'an prochain pour aider certains citoyens. Il faut aussi se rappeler qu'il y aura des élections fédérales en 2025. Justin Trudeau espère se faire réélire. Ses critiques pensent que ce congé de taxes, qui arrive comme un cadeau juste avant Noël, c'est pour se rendre plus populaire. Et toi, si tu pouvais avoir congé de quelque chose, ce serait quoi? Questions non résolues sur les dinos, un texte paru dans l'édition de décembre 2024 du magazine Les Débrouillards. De moins 68 à moins 66 millions d'années, le Tyrannosaurus rex fait partie des rares dinosaures dont on connaît tout le squelette. Une cinquantaine de spécimens ont été trouvés en Amérique du Nord. Son nom vient du latin « Tyrannosaurus » signifie « lézard tyran » et « rex » veut dire « roi ». Pour l'instant, les scientifiques ne reconnaissent qu'une seule espèce de tyrannosaure, le T. rex. Mais y en a-t-il eu d'autres? Des paléontologues américains croient que oui. Ils ont étudié les restes de 37 spécimens en 2022. Ils ont constaté que les plus anciens avaient tous des fémurs, os de la cuisse, costauds, et quatre incisives, dents à l'avant. Alors que les plus récents présentaient des différences entre eux. Selon les paléontologues, les spécimens anciens appartiendraient à une espèce appelée T. imperator, l'empereur, qui serait l'ancêtre du fameux T. rex. Les deux auraient eu des fémurs costauds, mais seulement deux incisives. À la même époque que le T. rex, le T. regina, la reine, aurait eu des fémurs plus fins et deux incisives. Là encore, de nombreux paléontologues ne sont pas d'accord. Les nouvelles espèces, T. imperator et T. regina, ne sont pas reconnues officiellement. Un débat similaire a eu lieu en Asie. À partir de 1955, une espèce fossile a été tantôt admise et tantôt rejetée du groupe des tyrannosaures. Elle a fini par en être définitivement exclue en 2023. S'agissait-il en réalité d'un frère ou d'un cousin du T. rex? On ne le sait toujours pas. Le Spinosaurus nageait-il de moins 108 à moins 93 millions d'années? Le Spinosaurus était légèrement plus gros que le T. rex. C'était d'ailleurs son cousin lointain. Les premiers fossiles de Spinosaurus ont été découverts en Égypte au début du 20e siècle. On a trouvé un morceau de mâchoire, des dents, des bouts de côte et quelques vertèbres. C'était suffisant pour comprendre qu'il était un grand prédateur. À cette époque, on l'imagine donc bipède, avec sa grande voile sur le dos. Dans les années 1970, on trouve de nouveaux fossiles au Maroc. Un museau complet donne une meilleure idée de sa gueule. Elle rappelle celle du crocodile. Les spécialistes pensent alors que ce dinosaure se nourrissait de poissons ou de reptiles marins. On le considère désormais comme un quadrupède. Hop, on ajuste les représentations. Affaire classée, pas si vite. En 2021, plusieurs détails du squelette montrent que le Spinosaurus n'était pas adapté à une vie permanente dans l'eau. Il aurait été plutôt terrestre, mais allait souvent patauger. Comment le représentera-t-on dans 15 ans? De nouveaux fossiles découverts dans les années 2000 permettent de reconstituer sa queue, comparable à celle d'un croco, et ses pattes arrière, courtes, avec de longs orteils. Le Spinosaurus semblait pleinement adapté à la vie aquatique. On ajuste encore les dessins pour le montrer en bête nageuse. Quelle taille faisaient les monstres marins de moins 382 à moins 358 millions d'années? Le colossal Dancleosteus occupait les océans du globe bien avant les dinosaures, à l'époque du Dévonien. Puis, longtemps après la disparition des dinos, au Néogène, les océans ont été hantés par le mégalodon, un gigantesque requin. Dans les deux cas, on sait que ces animaux étaient très gros, mais on ignore leur taille exacte. Dancleosteus faisait partie des placodermes, une famille de poissons maintenant disparus. Des plaques osseuses recouvraient sa tête et l'avant de son thorax. Le reste de son corps était fait de muscles et de cartilages qui ne se fossilisent pas. On trouve donc seulement des crânes de Dankleosaurus. On a longtemps pensé qu'il faisait environ 8 mètres de long, mais en 2023, des scientifiques ont réévalué sa taille à moins de 4 mètres. Dans le cas du célèbre mégalodon, dont le nom complet est Autodus mégalodon, on trouve uniquement des dents. Elles sont triangulaires et ressemblent à celles d'un grand requin blanc actuel, mais en beaucoup plus grande. À partir de ces maigres informations, la taille de ce monstre a été estimée à 24 mètres de long, selon une étude de 1909, à 12 mètres en 1980, à 16 mètres en 1996 et enfin à 20 mètres en 2018. Quel dinosaure était le plus grand? Titanosaurus? Ultrasaurus? Supersaurus? Girafatitan? Avec de tels noms, on sait qu'on a affaire à des colosses. Ceux-ci appartiennent tous au groupe des sauropodes, des dinosaures quadrupèdes, herbivores, à la longue queue, au grand cou et à la taille démesurée. Lequel a été le plus grand? Difficile à dire, les fossiles sont trop rares et incomplets. Ceux de bonne qualité proviennent de bêtes ayant été ensevelies rapidement après leur mort. Ce qui n'est pas fréquent avec des dinos aussi gros. Le Brachiosaurus est le seul dont on connaît à peu près tout le squelette. Il mesurait 25 mètres de long, 12 mètres de haut et pesait entre 32 et 50 tonnes. Cela en fait officiellement le plus grand dinosaure ayant jamais existé. Or, à différents endroits de la planète, on a retrouvé un fémur ou des vertèbres clairement plus gros que ceux du Brachiosaurus. C'était « Question non résolue sur les dinos ». Il est une fois Coco, Caro et leur appart du futur. Un texte de Frédéric Lavoie, paru le 22 novembre 2024 dans les As de l'Info. Il est une fois, à notre époque, un couple qui expérimente la vie dans le futur. Voiture qui vole à la vitesse de la lumière, robot qui fait le ménage à notre place, repas complet dans une seule pilule? Pas du tout. L'avenir que Coco et Caro sont en train de tester est bien plus surprenant. Il n'est pas fait de technologies sophistiquées comme des ordinateurs hyper performants, mais de technologies toutes simples comme des toilettes vivantes qui transforment le caca en compost. Hein? Nous y reviendrons très vite. Commençons par présenter nos deux bibittes. Coco est ingénieur. Quand il a terminé ses études il y a plusieurs années, il a voulu inventer des objets et des techniques qui permettraient aux humains de mieux vivre tout en respectant la planète. Sa première grande invention a été un bateau fabriqué à partir de la fibre d'une plante. C'est à son bord qu'il est parti seul en mer durant plusieurs mois avec deux poules pondeuses, une mini-serre produisant des patates et un four fonctionnant à l'énergie solaire. Il voulait voir comment un humain pouvait se débrouiller avec si peu. Caro, elle, est architecte d'intérieur. Son travail est de rendre les maisons belles et agréables à habiter. Mais pour elle, cela ne veut pas dire de peindre les murs avec des couleurs pimpantes. Son ambition et de rendre nos lieux de vie plus vivants, c'est-à-dire d'y intégrer des éléments de la nature. Un jour, elle est tombée sur un article de journal à propos de Coco qui faisait le tour du monde en expérimentant des technologies simples comme une machine pour transformer l'eau salée de la mer en eau potable. Elle lui a écrit et il l'a invitée à bord. À leur retour sur la terre ferme, 3 ans plus tard, Coco et Caro ont habité 4 mois dans un désert pour mener d'autres tests. Puis, Coco et Caro se sont lancés un autre défi. Habiter dans un appartement en ville qui soit à l'image de leur vision de l'avenir. Dans leur appartement du futur, toute l'électricité est produite par des panneaux solaires. Dans leur toilette, plutôt que de l'eau, il y a des larves de mouches. Ces larves se nourrissent de caca et des résidus d'aliments qu'elles transforment en compost. Coco et Caro utilisent ensuite ce compost pour nourrir leurs plantes. Dans leur salle de bain, la douche émet un jet de fines gouttelettes. Cela leur permet de se laver, mais aussi de faire pousser des champignons qu'ils peuvent ensuite déguster. Coco et Caro ont aussi des colocs qui se mangent. Ce sont des grillons, un insecte riche en protéines et en vitamines. Ils adorent en faire frire à la poêle. Le couple est bien sûr conscient que tout le monde ne rêve pas de manger des insectes dans un appartement où poussent des champignons. Mais ils savent aussi que les humains, qui détruisent chaque jour un peu plus la planète, doivent changer leur mode de vie. C'est donc aujourd'hui qu'il faut commencer à inventer et tester des solutions. Et s'endormir avec le chant des grillons, c'est chouette, non? Cette histoire est bien sûr vraie. Clorentin de Châtel-Parent et Caroline Pouls développent depuis des années des low-tech, des technologies simples et astucieuses pour imaginer un avenir plus soutenable pour les humains et tous les vivants de notre planète. Et toi, serais-tu prêt à partager ta maison avec des larves, des grillons et des champignons? C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. Merci à toute l'équipe.